Quand je serai grande, je serai astronaute.
Dans ce nouvel épisode de Les enfants du goût et de l'odeur, nous sommes allés à la rencontre de Anne-Marie Mendy, dite Anna. Fondatrice de Colorful Black, une boutique spécialisée de la beauté noire et métisse, située dans le 2e arrondissement de Paris. Lors d'une conversation en aparté avec Anna, elle nous apprend que sa famille est originaire de Guinée-Bissau. Puis, elle s'est installée au Sénégal, où la mère d'Anna est arrivée à l'âge de 5 mois. Quant à son père, il y est né. Anna elle-même est née au Sénégal et arrive en France à l'âge de 5 ans. Entourée de sa famille, elle a passé toute son enfance à Garges-lès-Gonesse. Dans cet épisode, Anna aborde les nombreuses assignations qu'elle vit en tant que femme noire, que ce soit lors de sa scolarité, de son parcours d'entrepreneuse ou dans son quotidien. Elle soulève aussi les questionnements qu'elle a pu avoir en tant que maman d'enfants métis et de son désir de préparer et informer ses enfants face au racisme qui sévit dans toutes les sphères de la société. Car même pour une simple coupe de cheveux, ses enfants se sont retrouvés moqués et stigmatisés. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Anna, comment vas-tu ?
Bonjour Pascal, ça va et toi ?
Bah écoute, très bien, merci. Je suis vraiment ravie d'accueillir aujourd'hui sur notre podcast Les enfants du bruit et de l'odeur. Je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Et est-ce que tu pourrais te présenter du coup, dire qui tu es, ce que tu fais à nos auditeurices, s'il te plaît ?
Alors je m'appelle Anne-Marie Mendy, on m'appelle Anna. Mm-hmm. Je suis maman de 4 enfants. Je suis pas mariée, mais je suis pas axée à Frédéric, qui est aussi mon associé. Alors moi, je suis sénégalaise. Hein, je suis arrivée en France à l'âge de 5 ans. Mm-hmm. Je suis venue avec mon père, ma mère, mon petit frère et une de mes grandes sœurs. On a vécu à Levallois pendant 1 an. Et mmh. puis après, on a emménagé dans le 95 à Garges-lès-Gonesse. Et c'est là-bas que j'ai fait toute mon enfance. Donc, à l'âge de 9 ans, je perds mon père. Donc, je suis élevée que par ma mère. Avec, entre-temps, il y a tous mes frères et sœurs qui sont arrivés. Donc, on est 10 enfants. Mmh. Quand je suis arrivée, en fait, je parlais pas du tout français. Hein, donc, c'était compliqué. Mais je retiens quand même de bons souvenirs de cette école où je suis restée... 1 an à Levallois, mm-hmm. donc j'ai de très bons souvenirs, donc je pense que c'est très très bien passé. Après, la difficulté aussi, c'est l'apprentissage, parce que ma mère ne parlait pas français, mon père parlait français, donc l'école, c'était difficile, hein, de revenir de l'école et de pas avoir un parent qui contrôle les devoirs. Ça a été difficile en fait pour moi. Donc effectivement, et je me rappelle, c'est des souvenirs comme ça que j'ai, c'est pour ça que je veux faire les devoirs de mes enfants avec eux. C'est que j'allais à l'école et j'avais pas fait les devoirs, et la maîtresse disait qui avait fait ses devoirs, et moi je me cachais en fait, de peur qu'elle voie que je les ai pas faits. Parce qu'effectivement, je pouvais pas les faire avec mes parents, parce mm-hmm. que ma mère ne parlait pas du tout français. Mm. Dès le début, ça va pas en fait, donc CP, ça s'est bien passé, CE1... ça a été une année où j'ai redoublé le CE1, et je pense que c'est rare aujourd'hui. À l'époque, c'était normal de redoubler, et ça, effectivement, je pense que je fais partie des rares personnes qui redouble son CE1. Mais je continue quand même mon année scolaire jusqu'au CM2, et je passe même au collège. Et c'est pour dire qu'il y a eu quand même forcément ces lacunes de primaire qui font que j'arrive en sixième. Et en sixième, on me propose le redoublement que j'ai pas accepté. Donc mon professeur principal me dit, je vois que tu n'acceptes pas le redoublement, tu peux faire venir ta mère, et elle refusera le redoublement. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait venir ma mère au collège, et qui a refusé mon redoublement. Et c'est ça a été un élément déclencheur, parce que de ce jour-là, je me suis dit non, tu dois aller au maximum. C'est juste des cours, tu vas apprendre comme tout le monde. Tout le monde n'a pas forcément ses parents derrière, mais tu vas y arriver. Et c'est de là que j'ai commencé à travailler, effectivement. Après, j'ai pris une section technologique, et là, j'ai fait partie des meilleurs de la classe, quoi. Parce que j'avais cette niaque, je voulais pas que d'avoir fait déplacer ma mère à l'école pour rien. Et depuis, j'ai fait mon parcours avec de très très bonnes notes. Je suis pas partie en général, je suis partie en professionnel, comptabilité, et ça s'est très très bien passé. Mm-hmm. Et puis après...
Pourquoi comptabilité d'ailleurs? Pourquoi tu as choisi comptabilité? C'était quelque chose que tu connaissais déjà? Comment s'est passée cette orientation comptabilité?
Non, c'est pas quelque chose qu'on connaît, c'est que voilà, on est dans la banlieue, on nous a tous fait croire qu'il fallait aller dans ce secteur-là, qu'il y avait des emplois, secrétariat, vente, commerce. Effectivement, on a été là-bas. En acceptant en fait le choix de l'orientation qui nous avait été donnée, mais effectivement aujourd'hui je sais que c'est une grosse erreur, hein. C'était pas ma passion. Mm-hmm. Et j'espère qu'aujourd'hui ça change dans les écoles, parce que on m'a jamais demandé ce que je voulais faire. Mm. On m'a dit va là-bas, il y a du boulot. Quand vous sortirez de cette formation là, vous allez forcément trouver un boulot. Et je suis partie en compta. J'ai aimé les chiffres, donc je me suis dit ok, j'y vais. Ok, mm-hmm. Effectivement j'ai été en compta, mais c'était pas... S'il y avait à choisir, ça n'aurait pas été mon premier choix.
D'accord. Du coup, est-ce que tu as vu un conseiller d'orientation? Est-ce que, par hasard, pendant tes années collège, tu avais déjà vu des brochures, des propositions pour tes écoles plus tard, en fait? Est-ce que tes parents ou toi-même avaient eu connaissance de toutes les possibilités et de tous les types de métiers qu'ils pourraient avoir, en fait?
Non. Le seul souvenir, c'est qu'il y avait compta, secrétariat, vente. Voilà, les trois. Il y avait pas autre chose, hein. Voilà. Mm. Donc, on est toutes, voilà. Et la majorité, on était tous comptables après. Mm. Voilà. Mais il y avait pas d'autres propositions. Non, il y avait pas d'autres propositions du tout.
Et toi, tu ne voyais pas non plus pour toi d'autres possibilités?
Ben non, parce que on m'a dit qu'il y avait forcément un boulot derrière ça, et puis on se dit oui, on veut forcément faire des études et trouver un poste derrière, donc on va dessus. Mm. Et je me souviens, j'avais dit à une de mes profs, ok, est-ce que je peux mettre photographe en premier choix? Elle m'a dit, ah non, photographe, c'est tellement simple que il risque de te l'accepter. Prends la compta, et si tu n'es pas accepté en compta, on va te récupérer en photographe. Puis voilà, ça a été mon choix.
Alors que toi, tu voulais être photographe, en
oui,
fait.
Oui, j'aurais aimé être photographe. J'aurais aimé être photographe ou coiffeuse, mais ça pas, non, c'était pas, on a l'impression qu'il y avait des cases déjà prêtes et qu'on devait tous mettre soit en compta, soit en vente ou soit en secrétariat. Et vu que, voilà, au niveau scolaire, l'écrit, ça a été toujours mon handicap, secrétaire, j'aurais pas pu, j'aurais forcément fait des fautes. Donc, mm-hmm. Les chiffres, ça, je maîtrisais, donc j'ai été dans la sécurité.
Ça a donné quoi, tes études de comptabilité, quand t'as évolué dans ce domaine? Ça s'est passé comment?
Dès que j'ai eu mon bac compta, j'ai quitté l'école et j'ai trouvé un poste en service comptabilité de Fiat Auto. Donc je suis restée là-bas de 2001 à 2006. Et puis après, il y a eu un plan de licenciement. Puis moi, j'ai profité de ce plan pour me faire un congé individuel de formation, et j'ai voulu reprendre mes études, faire un BTS compta. Et c'est là que j'ai su que c'était pas pour moi la compta. J'avais plus cette passion là j'ai fait en un an, et je l'ai même pas eu parce que j'avais pas cette passion là et ça a été un déclic pour moi, me dire non, tu veux rester dans ce domaine là et t'es pas heureuse, en fait. Mm. Je me vois pas enfermée dans un bureau, je l'ai été tout ce temps, non, c'était pas mon truc. Je me suis dit Fiat va à Trappe, je vais profiter de ça et je vais faire une rupture conventionnelle. Et on a fait une rupture conventionnelle. Et c'est là que je suis restée à la maison et j'ai réfléchi. Et donc, et d'où ce voyage à Londres où j'ai créé Colorful Black avec Frédéric, mon conjoint.
Donc, c'est parce que tu es partie en Angleterre, en fait, que tu as eu cette idée?
Oui, oui, oui. En quittant Fiat, je suis restée chez moi. Puis après, je suis tombée enceinte de April. Pendant un an, j'étais à la maison. Et puis après, on s'est dit, pour ces un an, on va aller à l'étranger. On a choisi l'Angleterre et là-bas, le déclic par rapport à l'offre produit qui était là-bas. Et je me suis dit, ça me plairait. Le déclic, vraiment, c'est l'offre produit à l'étranger. Donc effectivement, en France, nous, on a toujours eu le basique to basique. Et quand on va à l'étranger comme ça, on voit des choses qualitatives. On avait toujours vu aussi à la télé ces perruques magnifiques que portait Beyoncé. Et on se dit, waouh, c'est joli. Donc aller en Angleterre et voir qu'il y avait une qualité d'extension comme ça, qu'il y avait des produits autres qui n'étaient pas en France. Là, tu te dis, ah oui, j'ai envie d'apporter ce petit cadeau à ma communauté française, quoi.
Pourquoi, à ton avis, il y avait aussi peu de choses pour des personnes noires, pour des femmes noires ou des hommes noirs ici en France?
Moi, je dirais parce qu'on s'est contenté de ce qu'on nous donnait. Mmh. On s'est dit que peut-être que ça n'existait pas, hein. Et puis après, on a pris ce qu'on nous donnait. On n'a pas cherché à se dire qu'il y avait quelque chose qui était mieux ailleurs. Et aujourd'hui, on continue quand même à alimenter tout ça, hein, parce que on se contente de ce qu'on nous donne. Et ça, j'ai envie de dire à ma communauté, c'est on est les seuls acteurs en fait, hein, de notre histoire. Donc si on me propose que du défrisage, je peux aussi le refuser ou l'accepter. Voilà. Donc à l'époque, on nous proposait des extensions de cheveux, on faisait toujours des braids sur des braids. On n'a jamais appris à gérer nos cheveux, même nos parents. On connaît tous la crème d'Axe, hein, ça a été la seule crème qu'on nous a mis parce qu'on n'avait pas de conseils. On s'est contenté de ce qu'on nous donnait. On s'est pas dit qu'il y avait quelque chose qui existait ailleurs et
Il y avait pas Internet. Enfin moi, à mon époque, du moins, il y avait pas Internet, il y avait pas tout ça. Enfin moi, quand je regardais les coiffures dans des clips, je savais pas où les trouver. En même temps, je voulais bien les avoir, mais comment faire, tu sais?
C'est ça. On dit, ouais, les Américains, ils ont de beaux cheveux.
Non, mais c'est ça. C'est trop de chance. Wow, ça brille et tout. Regarde l'afro, regarde les chevilles. Tout était bien, quoi.
C'est le rêve américain. Hein. On se disait, waouh, moi, je vais la même coupe. Mais voilà, on savait même pas que c'était des extensions. Ouais, hein. C'était des perruques. On se disait, waouh, là-bas, ils ont un produit miracle.
Après, il y avait des filles quand même qui avaient leurs cheveux naturels. On avait quelques-unes qui avaient quand même des cheveux naturels. Et qui avait de très beaux cheveux aussi.
Oui, naturel et long surtout, ouais. C'était ça en fait. Ouais. Donc nous, on était, moi, j'ai pas à me plaindre. Quand j'étais défrisée, j'avais le cheveu long, mais on se disait, waouh, ces coupes-là n'étaient que à la télé. Effectivement, ces coupes-là n'étaient que à la télé. Étant plus jeune, je me suis toujours défrisée les cheveux, toujours, et j'adore la coiffure. Hein. Je me coiffais toute seule ou avec mes sœurs et entre copines, on se coiffait aussi. J'ai été une fois dans un salon de coiffure. Et le réflexe encore, c'était de lisser, de défriser. Mon dernier défrisage a été fait par un professionnel parce que à l'époque, on le faisait tout seul et donc je gardais quand même cette masse. Mais quand j'avais été en salon, j'avais rien sur la tête, quoi.
Comment ça, t'avais rien sur la tête?
Bah tellement le lissage était bien fait, j'avais plus de volume en fait. Et même, je me souviens ce jour-là quand je suis rentrée dans le salon, le coiffeur a dit ah, waouh, on va avoir du boulot. Et quand il m'a défrisé, il a dit ah non, on pensait pas que ça allait faire comme ça. Parce que c'était tout plat, c'était pas joli. Donc, ouais.
Donc voilà. T'avais abîmé un peu les cheveux quand même là.
C'est ça, là c'était vraiment.
T'avais bousillé ton cheveu
professionnel que moi je trouvais pas. Effectivement, nous on achetait notre défrisage au commerce d'à côté et on le faisait tout seul. Quand je suis partie dans ce salon là, il m'avait fait le vrai défrisage, comme on pourrait dire ça comme ça dans les clips.
T'as voulu donner d'autres références en fait au salon, on va dire, enfin à la vente de produits de cosmétiques pour des personnes noires. Est-ce que tu peux me dire un petit peu ce que tu voulais faire? Pourquoi en fait ce choix?
C'est comme un regret en fait de se dire que ces quartiers-là auraient pu être de beaux quartiers, et je pense que c'est pas trop tard en fait, ils peuvent être de beaux quartiers, mais ce que je reproche en fait à ces lieux-là, c'est que c'est nous qui alimentons ça en fait, c'est que nous en femmes noires qui acceptons en fait d'être accueillies dans des endroits comme cela où dans 3 mètres carrés tu vas mettre 10 chaises. Et c'est ça, en fait. Moi, je voulais proposer un endroit similaire aux autres salons, en fait. Donc ça, c'est un gros reproche. Hein. C'est pas au salon Château d'Eau à qui je jette la pierre. Hein. C'est à nous, à nous, femmes noires ou hommes noirs, d'arrêter et de refuser, en fait, d'aller dans ces endroits-là. D'être respectée, en fait. Moi, je vais dans un endroit, je veux pas qu'on me mette de côté, qu'on s'occupe de moi là et puis qu'on aille s'occuper de quelqu'un d'autre. Non, je veux juste qu'on me respecte. Et ça, c'est nous. Le respect, c'est nous qui allons le chercher, quoi. Et ces quartiers-là, comme je dis, s'il n'y avait pas le côté racolage dès que tu sors du métro, moi, je fréquente ce quartier-là. Hein. Chaque fois, quand je quitte la gare de l'Est pour arriver au boulot, je marche devant. Quand j'ai mon cheveu afro, mon Dieu, je suis interpellée par tous les gars. Parce qu'ils considèrent que je ne suis pas coiffée. Je me suis prise la tête avec un à qui je lui ai demandé, mais pourquoi? Il me dit, ouais, mais tu n'es pas coiffée. Je dis, mais comment ça, je ne suis pas coiffée? Qu'est-ce que c'est la coiffure pour toi? Il me dit, bah, tu n'as pas de tissage, tu n'as pas de mèche. Je dis, mais c'est quoi ça? Je lui ai dit, non, arrêtez ça. Et là, il s'est dit, oh là là, je suis tombée sur une rebelle.
Une nappe.
Je lui ai dit, arrêtez ça, parce que moi, je suis coiffée. Mm. Et là, il m'a dit, non, je suis pas coiffée. Il a persisté. Je lui ai dit, non, arrêtez, parce que quand on marche dans... Jamais vu un salon pour blanc racoler sa clientèle à l'extérieur. Mm. Moi, je suis coiffée. Et c'est ça, en fait. C'est que déjà, nous, Africains, on considère que porter son afro n'est pas une coiffure. Donc, c'est pour ça qu'on se fait pas respecter par rapport au lieu où on va et par rapport à la coiffure qu'on porte, quoi.
Mm. Non, mais c'est vrai que certaines personnes vont te dire... Ouais, bah non, t'es pas coiffée, non. Parce que t'as des cheveux afro. Mais en même temps, c'est un engrenage, hein. Comme je te disais tout à l'heure, au niveau de la représentation, moi, personnellement, j'avais aucune représentation de personnes avec des cheveux au naturel, crépus, frisés, bouclés, un afro. C'était toujours des filles noires avec des cheveux lisses et ou alors des filles blanches avec des cheveux lisses, quoi. Et regarde bien, même aujourd'hui à la télé française, quand les personnes vont se mettre une perruque, même des personnes blanches, quand elles vont se mettre une perruque frisée, c'est toujours dans la moquerie. Le cheveu crépus est fait pour être moqué. Regarde, la dernière fois, il y a une actrice qui était passée à la télé, je vais pas citer le nom de l'émission, mais elle est arrivée, le présentateur s'est permis... pendant je sais pas combien de temps, de faire des blagues comme un enfant de 3 ans sur ses cheveux. Est-ce qu'elle s'était coiffée? Est-ce qu'elle s'est mis les doigts dans la prise? Est-ce que c'est... Tu vois donc, en fait, le cheveu afro est quand même source de moquerie. Et ça, on l'a aussi intégré. Cette personne que tu as rencontrée l'a aussi clairement intégré. Et on a peut-être joué, d'ailleurs, pour le fait de dire, bah non, coiffe-toi, parce que là, quand tu sors avec tes cheveux au naturel, même si tu les as coiffés, brossés, shampoinés, fait un masque, passé 3 heures à t'en occuper, et ben c'est pas encore assez suffisant. Tu seras coiffé seulement si tu les caches, en fait.
C'est ça.
Donc,
c'est nous qui devons arrêter ça, hein.
Oui, mais c'est pas si facile, en fait, c'est de se dire, c'est à nous, on n'est pas, c'est pas des trucs individuels, je pense, hein. Je te dis, ce garçon, il a grandi où aussi et à travers quoi? Qu'est-ce qu'il a comme imaginaire? Qu'est-ce qu'il pense? Enfin, il a grandi en regardant, il a vu ces mêmes émissions et dans toutes ces émissions, il a intégré lui-même dans sa tête que bah il faut. C'est pas comme si aujourd'hui il y avait plein d'autres représentations positives. Enfin, aujourd'hui, si, ça commence à venir, mais à l'époque de sa jeunesse, il n'a eu que des représentations pour lui dire, en fait, c'est moche, c'est pas coiffé. Tu vois, et dans sa tête, il s'est construit comme ça. Il te le dit peut-être en le pensant sérieusement, en pensant que c'est pas coiffé.
Oui, c'est
ça. Et voilà. Donc, tu peux pas lui dire, tiens, arrête ça. Enfin, c'est bien. Tu vois, tu lui as expliqué.
Mais je pense que si on est plusieurs à chaque fois, toutes ces filles qui racolent dans la journée, qui disent stop, je suis coiffée.
Ouais.
Peut-être qu'il va dire, ah oui, elles commencent à, oui, je suis coiffée.
Elles sont embêtantes.
Propose-moi autre chose, mais ne me propose pas. Même, ouais. Voilà. Si j'ai envie de me faire coiffer, je rentre. Si j'ai envie de me faire les ongles, je rentre. Donc qu'on nous laisse aussi choisir qui on est.
Non, mais clairement.
Il faut aussi oser le dire. Mmh. Aujourd'hui, on le dit pas, en fait. C'est qu'on a l'impression de, on subit, mais on le dit pas. Non, moi, ce jeune homme-là, effectivement, il s'est tombé sur lui parce qu'il y en avait 10 avant lui. Et je me suis dit, non, il faut que je lui demande, quoi. Pourquoi il m'arrête comme ça? Stop. Et c'est pour ça que j'ai pas été dans ces quartiers-là, parce que même moi, je prends pas toujours ce trajet-là, parce que j'en ai marre.
Mmh.
Voilà, ça me dérange pas de discuter avec les gens, mais répéter 10 fois la même chose, c'est fatigant. Mmh. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu faire subir le racolage à ma clientèle en étant dans ce quartier-là. Peut-être que j'aurais eu plus de clients, mais j'ai préféré proposer un autre endroit plus calme et plus classe pour eux. Oui, s'il n'y avait pas tous ces racoleurs, si les salons étaient bien tenus, j'aurais envie d'y aller.
Mm.
Mais aujourd'hui, il n'y a pas ça. On a eu de plus beaux salons à Londres qu'à Paris. Et puis, j'espère que Paris va s'inspirer, hein, parce que ce n'est pas encore ça.
Hein.
Ce n'est pas encore ça.
Quand tu es arrivée dans le deuxième, dans le quartier où tu te trouves, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu n'as pas été très bien accueillie non plus. Justement, on t'a fait comprendre que peut-être que c'était pas ta place, quoi.
Ok. En 2011, je trouve un local dans ce quartier-là. Mm. J'ai pas de problème. Parce que j'étais dans un petit coin comme ça, invisible, on va dire. Une petite boutique là. Et j'avais pas de problème. Et c'est en 2016 quand j'ai emménagé en face et j'ai pris une boutique qui faisait l'angle. Là, j'étais visible. Et là, oui, j'ai posé problème. J'ai eu une affiche où on me disait que d'aller dans ces quartiers africains, qui ne voulaient pas en fait que je reproduise la même chose dans ce quartier du deuxième, comme ce qu'ils avaient fait dans le à château d'eau, et que j'allais dégrader leur quartier. Que j'allais faire baisser le prix de l'immobilier aussi.
Ah, ils ont écouté Booba ou
Voilà, c'est ça, que j'allais faire baisser le prix de l'immobilier, que j'étais entre guillemets une assistée, que je profitais de toutes les aides, comme voilà, tous les Africains profitent de toutes les aides. Et oui, effectivement.
T'as eu ça, donc ils ont mis une affiche
Oui, collée sur la vitrine.
Comme quoi, en fait, t'étais pas la bienvenue, que tu devais rentrer chez toi, on va dire, Château d'Eau ou Château Rouge.
Oui, que voilà, c'est ça, en fait. C'est ça. Effectivement, qu'ils avaient dégradé Château d'Eau, Château Rouge, je n'avais qu'à aller là-bas, en fait, continuer à alimenter ces quartiers-là, et que j'avais pas à venir dans ces beaux quartiers, parce que les beaux quartiers sont réservés aux Blancs. Voilà. Donc, moi, je gênais. Mais pourtant, j'y étais de 2011 à fin 2016.
Mais tu t'es agrandie et t'es devenue visible.
J'étais visible, voilà, c'est ça.
Tant que tu es petite, ça allait, mais si ça marchait, si c'était joli, si t'étais un peu plus visible,
ouais,
bah t'es plus à ta place, quoi.
C'est ça. Et après, voilà, c'est l'enseigne qui dérange. C'est le nom Colorful Black qui dérange. Et je pense que ça dérange encore aujourd'hui. Hein.
Et pourquoi, à ton avis, ça dérange, Colorful Black?
Parce que se dire que je cible qu'une communauté, et c'est pas vrai, en fait, parce que colorful, c'est, pour moi, c'était diversité, c'était le métissage, le mélange de tout, d'une texture de cheveux à une couleur de peau. Donc mais ces gens là ils restent ancrés, il y a le mot noir dessus, donc elle est
communautaire.
Ouais, elle est communautaire. Mais j'ai envie de dire aussi, quand moi j'ai habité longtemps à Suresnes, tous les salons de coiffure qui étaient autour de moi étaient que des salons pour blancs. Et j'ai pas été mettre une affiche en disant mais et nous non. Donc ça, je comprends même pas, et je sais pas, c'est la visibilité, en fait. Les noirs, c'est, en fait, vous êtes bien, mais tant que vous êtes tout petit, en fait, c'est ça. On plaît aux gens quand on est discret, et quand on ferme notre bouche, et quand on se fait pas trop voir, en fait, c'est ça.
Donc, quand on donne pas notre avis, quand on donne pas...
C'est ça.
Quand on n'existe pas.
On est des humains et on existe.
Je rebondis un peu sur ce que tu disais tout à l'heure. Quand tu disais qu'on devrait faire les choses par nous-mêmes, c'est pas évident non plus de faire les choses par nous-mêmes, parce que quand on fait des choses par nous-mêmes, régulièrement, soit on est traité de communautaire, soit on nous case, en fait, on nous parque dans des lieux en disant, en fait, tu peux le faire par toi-même, mais dans des lieux bien particuliers, comme justement en banlieue, soit à Château d'Eau, Château Rouge, mais on n'aurait pas le droit de le faire par nous-mêmes et de grandir et de créer, on va dire. On voit, par exemple, les salons de coiffure, c'est pas fait pour nous. Les personnes n'apprennent même pas à l'école comment traiter nos cheveux, comment s'occuper de nos cheveux, les cheveux texturés, crépus, frisés. Mais quand on le fait par nous-mêmes, eh ben, on est tout de suite taxé de communautariste, en fait. Et pourtant, ces salons ne sont pas communautaires.
C'est ça. Ça gêne quand ça vient de nous. Voilà. Quand le projet est fait par un noir, là, on dit, non, quand même, là, c'est abusé, ça fait trop communautaire. Mais quand c'est un blanc qui décide de venir dans notre secteur, d'offrir des prestations ou des produits pour les noirs, on dit, c'est bien, ils ont pensé à eux. Il faut aussi que ce soit pas vu comme communautaire à chaque fois quand on s'adresse à notre communauté. Voilà. Parce que, effectivement, c'est quoi? C'est une niche pour eux, hein. C'est-à-dire, on va se faire de l'argent, en fait. C'est ça le problème, en fait. C'est que, ils le font juste pour l'argent, et c'est ce qui a posé le problème au début aussi, hein. Ils vont juste chercher à faire rentrer de l'argent, donc ils vont balancer tout et n'importe quoi.
C'est-à-dire. Sans aucune connaissance, en fait, de la texture, de l'histoire du cheveu afro,
C'est ça. Avec tous les produits nocifs pour le cheveu, on va juste dire, on va se faire de l'argent. Voilà. Tandis que si, c'est une personne concernée comme moi, je vais faire une sélection de produits. Voilà, on sait aujourd'hui que le défrisage a été très nocif pour la femme noire. Mais il y a encore des femmes qui le font parce qu'elles ne sont pas au courant. Même moi, j'ai vendu du défrisage parce que moi-même, j'étais défrisée. Mais quand je me suis posée sur les dégâts du défrisage, ça a été du jour au lendemain stop. Parce que je ne voulais pas...
Tout simplement, quand tu sais ce que ça fait pour toi, tu peux pas diffuser ce genre de produits.
Voilà, je voulais pas qu'on me condamne aussi, parce que effectivement, si toute personne qui vend des produits nocifs et qui est consciente que ce qu'elle vend est nocif, non, ça c'était pas possible pour moi. Je me suis dit non, le défrisage, et j'ai dit à Frédéric, mon conjoint, écoute, stop, le défrisage, non, je l'ai fait. je critique pas les personnes qui se font défriser, mais il faut qu'on les alerte, faut qu'on les informe, en fait, des dégâts que ça peut causer, et je veux pas.
Et quels sont les dégâts, justement?
Bah, je sais qu'il y a une étude aux États-Unis qui est sortie en disant que aujourd'hui, ils ont fait un rapprochement. Le point commun qu'il y avait entre ces femmes-là qui avaient tous ces cancers-là, c'était le défrisage. Mmh. Voilà. Donc, problème de cuir chevelu, alopécie aussi, hein. Beaucoup de dermatologues aujourd'hui, quand nous, clientes noires, on va voir des dermatologues et qu'on a juste un peu de cheveux qui partent,
tombent.
Alopécie de traction. Voilà.
Alors que pas forcément, ça peut être forcément dû aux produits chimiques.
Ça peut être dû aux produits chimiques, en fait. Et là, tout de suite, on est catalogué, en fait. La femme noire qui va parce que, des fois juste parce que c'est une perte de stress, hein. Mm-hmm. Quand tu subis un stress, ton cheveu, il tombe. Mm-hmm. Donc quand tu arrives, non, madame, c'est l'alopécie de traction. Et ça, c'est ça que j'ai envie de dire aussi à nos dermatologues. Attention, écoutez-nous. Mm-hmm. Parce que c'est pas que les tresses ou les tresses, les tissages qui nous arrachent les cheveux, on peut aussi subir du stress. Mm-hmm. Une femme caucasienne qui va voir un dermatologue parce qu'elle a juste une petite pelade ici, on va lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Vous passez par une paire de stress, là? Mm-hmm. Oui, oui. Mais quand la femme noire arrive, on lui dit, non, ça, ce sont les tresses. Et tu as beau dire au médecin, non, je ne fais pas de tresses. Ah, si, c'est sûr. Il reste persuadé parce qu'on lui a dit, quand tu as une femme noire, c'est voilà, il y a un petit calepin à côté, femme noire, alopécie de traction. Et ça, non. Non, c'est le défrisage,
les produits chimiques,
parce qu'on nous a pas informés et aujourd'hui on est en train aujourd'hui d'éduquer notre communauté à leur dire attention, certains produits, les défrisages c'est pas bon. J'ai des clientes défrisées, mais quand elles viennent, on va essayer de trouver des produits pour réparer le cheveu, même si on sait que c'est pas possible de le réparer, mais on va juste combler les brèches et essayer d'avoir un cheveu qui tienne dans le temps. J'ai jamais fait la morale à personne parce que j'ai été défrisée aussi. Mmh. Mmh. Donc peut-être que des fois, il faut juste toi-même avoir le déclic. Mais jamais je te dirais arrête de défriser.
Tu ne vends pas de défrisage, mais tu donnes de conseils aux personnes.
Oui, je ne vends plus de défrisage. J'en ai vendu et puis je me suis dit non. Parce qu'au début, je me disais oui. J'ai fait le choix, moi, en étant plus jeune, de me défriser. C'était pas une question de honte. Hein, parce qu'aujourd'hui, t'as des filles au naturel parce qu'il y a deux, pour moi j'ai deux catégories de retour au naturel. T'as la fille au naturel c'est-à-dire qui arrête totalement le défrisage, et t'as la fille au naturel qui dit je ne mets plus de produits entre guillemets chimiques sur mon cheveu. Voilà. Et t'as les filles qui considèrent que parce que nous à l'époque on était défrisés, c'est qu'on n'assumait pas en fait notre négritude. Et ça, j'ai envie de dire non. Je peux comprendre que tu dises que je n'accepte pas ma négritude quand je me blanchis la peau, mais c'est pas parce que j'ai fait un lissage que ma couleur de peau, c'est ce qui me définit le mieux. Que je porte des extensions des fois, c'est pas, je renie pas ma couleur, en fait, tu vois. Donc il y a tout ça. On a besoin de
pas cataloguer, catégoriser les personnes tout simplement. On a le droit de faire ce qu'on veut de toute façon avec sa tête.
C'est ça. Hein.
Donc voilà, d'abord.
C'est de comprendre pourquoi aussi, hein, parce que des fois c'est le boulot qui nous oblige à faire ça. J'ai beaucoup de clientes qui se défrisent encore parce que leur employeur ne veut pas
caser leurs cheveux naturels.
Voilà, t'es pas coiffée.
Je sais. Tu vois, t'es pas coiffée. Ça revient.
Voilà, t'as une cliente qui m'a dit qu'elle était. Elle est avocate et quand elle allait voir des clients, son patron lui disait bah non, tu viens pas avec moi comme ça, t'es pas coiffée.
Mais tu vois, mais c'est ça, c'est qu'on nous impose tellement de choses. Ça veut dire qu'en fait, au naturel, on peut pas l'être. On est coiffé, hein, on est voilà. Mais c'est quand même horrible de se dire en fait, tu peux pas être toi-même. T'es obligé de te dénaturer les cheveux, de mettre des produits chimiques. C'est dangereux pour ta santé, mais t'es obligé de faire tout ça pour être accepté.
Oui, et pour ressembler à qui surtout?
À un modèle imposé occidental, quoi.
Oui, c'est pas nous, en fait. Donc, ça, effectivement, c'est un gros travail, hein. C'est pas un petit truc, hein. C'est vraiment un gros, gros, gros travail à faire. Et beaucoup de personnes vivent mal aussi. Donc, dépression, parce que tu peux pas... comme je dis souvent, mon cheveu, c'est ma personnalité. Donc, si je suis pas bien dans ma tête, c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de dépression. Voilà. si je suis pas bien, mon cheveu me dit je suis pas bien. Voilà, des fois quand je vais mal, je veux juste que je passe le peigne et je ramasse une touffe. Et là, je sais qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose que j'ai.
Tu perds tes cheveux, quoi.
Voilà, que j'ai à l'intérieur de moi et que je n'ai pas extériorisé, c'est ce que je dis aux clientes. Ah, j'ai beaucoup de casse en ce moment. Vous avez du stress. Ah oui, oui. Donc sortez-le. J'ai pas de produit miracle. Que je vous donne un shampoing anti-casse, ça va pas résoudre. La première chose, c'est d'évacuer tout ce que vous avez au fond de vous, parce que c'est le meilleur remède, en fait. Donc là, elles comprennent mieux, effectivement, elles se disent oui. Ouais. Et il y a une semaine, j'ai eu une cliente qui est rentrée et j'ai adoré parce que elle m'a dit, mon cheveu, c'est le reflet de ce que j'ai au fond de moi.
Qu'est-ce qu'elle raconte?
Oui, parce qu'elle m'a dit, oui, je vais mal, je traverse un burn-out et mon cheveu, je l'aime pas. Et là, je suis venue aujourd'hui pour que vous m'appreniez à l'aimer. Et on a passé du temps ensemble et oui, c'est ça. C'est qu'elle a compris en fait que si son cheveu est moche, c'est qu'elle a à l'intérieur, ça va pas. Et ça, c'est bien de le comprendre parce que beaucoup ne savent pas que tout est lié. C'est une façon que notre corps a de s'exprimer en fait.
On somatise. Je reviens un petit peu sur le fait que tu as été vandalisée. Comment tu t'en es sortie de ça?
J'étais déjà préparée. Hein.
Ah, d'accord, tu savais que ça allait arriver.
J'étais déjà préparée parce que je suis avec Frédéric qui est blanc. Mm-hmm. Donc là, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Et sortir avec un blanc, aller dans des lieux avec un blanc, on a le regard tout de suite des autres. Donc j'ai appris à voir ces regards posés sur moi. qui était pas sain, quoi.
Donc, en tant que femme noire, quoi, en fait. En tant que femme noire, quand tu sors avec un homme blanc, il y a forcément quelque chose, les gens te perçoivent d'une façon, c'est ça?
C'est ça. Même, voilà, quand on fréquente des lieux où il y a la majorité, on est en France, hein. De toute façon, on fréquente des lieux où il y a plus de blancs. Donc, quand on y va et que t'es la seule noire dans la pièce, souvent, j'ai dit ça à Frédéric. Quand on décide de voyager, on essaie de trouver un pays où je veux pas voir le regard des gens posé sur moi. C'est triste à dire. Je sais me défendre, mais je suis fatiguée. Voilà, j'ai envie de fréquenter des lieux où j'ai pas à faire, où j'existe, oui, des lieux où les gens ont déjà vu des noirs. Donc avoir cette affiche là, j'étais déjà prête parce que le racisme, il existe le racisme, donc ça, je me suis déjà mis ça dans la tête. Et avoir cette affiche là, ça ne faisait que valider ce que j'avais dans ma tête et ce que je disais sans cesse à Frédéric ou à mon entourage, les gens sont racistes. Et voilà, Cette affiche-là ne faisait que confirmer ce que je disais depuis des années. Donc, j'étais pas choquée.
Tu t'y attendais.
Je m'y attendais. Et même la semaine qui a précédé cette affiche-là, on était en train de préparer la boutique. Il y avait des passants qui faisaient des remarques comme ça. Oh, encore eux. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Et là, tu te dis, mais...
Ouais, ta présence dérangeait clairement, quoi.
Voilà. Mais pourtant, j'étais juste à côté. Mais vraiment, quand je dis à côté... Même pas à 50 mètres, j'étais là. Mais parce que j'étais pas visible, comme je le disais tout à l'heure. Plus on se fait discret, mieux les gens nous supportent, en fait.
Mais oui, on puis, pas à se faire discret. Quand tu t'es agrandi, ça voulait dire aussi quelque chose, en fait. Quand t'étais tout petit, quand une entreprise s'agrandit, ça veut dire que ça fonctionne aussi, qu'il y a besoin, que c'est, qu'il y a une demande. Donc, tant que ça ne fonctionne pas, tant que c'est petit, tant que t'es un peu en équilibre, un peu dans la misère, pratiquement, on va dire. Voilà. Tout va bien, tu corresponds à l'image de la personne noire, tu prends pas trop de place, tu es dans la demande, tu peux être assisté. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui vont dans ça. Moi, on m'a dit dernièrement, avec mon entreprise, pourquoi je faisais pas une association. Je me suis demandé si on demandait à chaque personne blanche qui avait une entreprise, pourquoi elle créait pas une association. Parce qu'en tant que femme noire, dans une association, c'est bien. Mais diriger une entreprise, c'est pas ma place, on va dire. Et je pense que dans ton cas, c'était petit, ça passait. Mais tu demandes peut-être trop, tu vois, en ayant quelque chose de plus grand et de plus visible.
Ouais, c'est ça. C'était gênant parce que je commençais à prendre de la place. Voilà. Mais c'est une place qui était méritée. Comme tu dis, si j'ai agrandi, c'est que j'avais de la demande et j'avais surtout le soutien de ma communauté, quoi. Je méritais ma place. De toute façon, je l'avais pas volée.
Mais de toute façon, oui, voilà. Donc, il y a même pas à se demander ce genre de choses.
Toujours, voilà, j'ai mérité ma place et je l'ai pas volée. Personne qui a écrit, j'aurais aimé la rencontrer. Parce que, bah oui, parce que il faut justifier tout ça. Parce qu'il m'a catalogué, il m'a dit que j'étais, entre guillemets, que j'étais une assistée, que je profitais des aides. Donc j'ai envie c'est pas de lui prouver, mais qu'il m'explique, en fait, où est-ce qu'il a pris toutes ces infos, parce que souvent, ces personnes-là racistes, c'est les dire, en fait. Ah, j'ai, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et ils savent même pas. Et même quand ils vont parler de l'Afrique, ils vont dire à l'Afrique, il y a pas d'eau. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Donc, cette personne-là, elle a écrit.
Mais le racisme, c'est pas rationnel, de toute façon. Enfin, les arguments racistes n'ont jamais été rationnels. Une personne qui monte une entreprise et qui s'agrandit, en quoi est-ce que ça montre une personne assistée? Il y a beaucoup d'arguments racistes qui n'ont aucune rationalité. Le racisme systémique n'a pas de rationalité. Le racisme individuel n'a pas de rationalité. Donc, j'ai presque envie de te dire, à quoi bon? C'est de la mauvaise foi, en fait, la classification de l'être, le fait de penser que qu'une personne due à un taux de mélanine dans une peau serait moins humaine, serait... est-ce que chaque été, les Blancs, quand ils bronzent, ils perdent en humanité? Ou est-ce que ça se passe comment? Donc, c'est quoi le truc? Donc, ouais, c'est... Enfin, clairement, en fait, il n'y a rien de rationnel dans ce racisme. C'est juste un système de domination. Et la domination par l'agression, la domination par le fait de caser des gens dans des cadres et de les déshumaniser. Pour moi, il n'y a absolument rien de rationnel dans le racisme. À part se battre pour imposer, justement... une égalité, enfin débattre sur quoi en fait, enfin du genre prouver quoi à qui?
C'est pas prouver, mais c'est essayer de comprendre.
Mais comprendre quoi?
qu'est-ce qui a fait qu'il en est arrivé là en fait?
Mais pourquoi c'est à toi de comprendre une personne qui t'agresse?
J'ai besoin qu'il m'explique pourquoi il a ces idées là en fait.
D'accord.
Qu'est-ce qu'il a vécu en fait pour ça?
En fait, c'était empathique. Hein.
J'ai rêvé de le rencontrer parce que si c'est voilà, il était
bon,
pas.
S'il nous entend aujourd'hui.
viens m'expliquer. Pourquoi tu as fait ça? Je sais pas. J'ai besoin de savoir pourquoi.
Ouais. Non mais je comprends.
Parce que j'étais là. C'est pas comme si je venais d'emménager dans le quartier. Mm. J'y étais dans le quartier en fait. Mm. J'y étais et parce que quoi? Parce que j'ai.
Agrandi.
Peut-être qu'il voulait une boulangerie à côté, effectivement, c'est ce qu'il disait. Il y a plein de restaurants à côté, mais il voulait un restaurant. J'ai toujours rêvé, en fait, de débattre avec des gens pour qu'ils me disent pourquoi. Pourquoi ils détestent tant la peau noire aussi? C'est partout comme ça, en fait. Pourquoi t'as des personnes blanches qui veulent pas du tout imaginer que leur enfant va épouser un noir? Mais tu vois, c'est la couleur noire qui dérange, hein. Parce que souvent, quand on voit, oui, comme quand on me voit, moi, Anne-Marie, avec Frédéric, un blanc, mm-hmm. on dit, elle est avec lui pour l'argent.
Ah, ben pourquoi ça.
Mais pourquoi? Pourquoi ce serait pas Frédéric qui est avec moi pour l'argent?
Et qu'est-ce que tu dis à tes enfants, justement? Qu'est-ce que tu dis à propos de tout ça? Comment tu appréhendes le racisme?
Je leur ai dit qu'il y avait le racisme. Ça, ils savent que leur couleur de peau va déranger.
Mm. Et à quel moment tu leur as dit ça et comment tu leur as dit ça?
À l'école, quand ils sont rentrés à l'école. Moi, j'ai mon troisième fils, Owen, qui a 6 ans aujourd'hui, a subi du racisme à l'école.
Mm. Mm.
Donc, il n'était pas préparé à ça.
Mm.
J'ai envie de dire que c'est peut-être mon erreur parce que j'ai préparé les deux grands à ça.
D'accord.
Et j'avais pas les grands appris à 13 ans. Je l'ai préparé dès le plus petit âge au racisme. Et Owen, j'ai oublié en fait. Mm. Effectivement, c'est lui qui a vécu ça parce que les autres, j'ai l'impression que je les ai tellement bien préparés qu'ils l'ont pas vécu ou sinon ils ne me l'ont pas dit.
Mm-hmm.
Mais Owen l'a vécu et il savait pas en fait ce que c'était. Quand il a reçu ses insultes, tu ressembles à un caca, ta couleur voilà, t'es dégueulasse, je vais pas traîner avec toi. Il est pas prêt à ça.
Et il avait 6 ans quand il a eu ça?
Owen, il avait 5 ans.
5 ans.
5 ans quand il a eu ça. Et j'ai pas vu parce que j'avais préparé les grands et pas lui.
Mm.
Et quand je me suis aperçue de ça, parce que je rentre du boulot et je les vois pas beaucoup, et quand ce soir-là, je me rappellerai toute ma vie, j'ai vu mon fils et je dis, ah, il y a quelque chose qui va pas. Donc je me suis assise sur le canapé, je lui ai dit, ah Owen, ça va? Comment ça se passe l'école? Ça va. Donc j'ai allé, on y va, on va se coucher. Ah, j'ai pas envie d'aller à l'école. Ah, je dis, mais pourquoi tu peux pas aller à l'école? Parce que mes camarades, ils m'embêtent, ils disent que je ressemble à, j'ai la couleur d'un caca, ils disent qu'ils veulent pas jouer avec moi, donc, waouh, ça fait mal pour une maman.
Mm.
Ça fait mal, donc, je prends mon téléphone et je note tous les prénoms qu'il va me citer. Parce que je me dis, il y en a. et je vais les noter pour m'en rappeler et lui reposer la question différemment et je verrai si ces prénoms là reviennent. Donc c'est pas faux, c'est vrai. Donc effectivement, on reste là, on devait aller se coucher, mais on y restait parce que j'avais besoin d'éclaircir ça. Et il cite effectivement les quatre prénoms de ces gamins et ben moi j'ai pris rendez-vous, on a envoyé un message le soir même à la directrice en lui disant qu'on souhaitait la rencontrer. Donc elle a accepté de nous rencontrer le lendemain. Donc on l'a rencontré j'ai la chance comme d'être responsable et de pas aller au travail tout le temps. Donc j'ai rencontré cette directrice à qui j'ai raconté l'histoire et elle m'a dit qu'elle ne s'étonnait pas en fait des quatre prénoms que je lui donnais. Quatre prénoms des enfants que je donnais. Donc j'ai compris que c'était les parents. Ses enfants allaient bien avec les parents, l'image des parents qu'elle avait en fait. Les parents sont racistes. Donc elle, ça ne l'étonnait pas en fait que je lui annonce que ses quatre enfants harcelaient mon fils dû à sa couleur de peau.
D'accord. Donc elle était au courant du problème.
Elle était pas au courant du problème, mais ça
l'étonnait pas. Elle était au courant, voilà. Elle savait qu'il y avait quelque chose.
De toute façon, on sait bien que nous en tant que parents, on déteint sur nos enfants. Hein. Voilà, l'enfant, il est notre enfant, il est celui qu'on veut qu'il soit en fait. Voilà, donc elle n'était pas étonnée du tout des quatre prénoms que j'ai bien pu lui donner. Et puis elle m'a dit, ok, je vais voir avec la maîtresse. Et donc j'ai dit, non, moi aussi, je veux voir la maîtresse. Et c'est là qu'elle me dit, ah, la maîtresse n'est pas là parce qu'il était dans une classe avec deux
niveaux.
Non, il n'y avait pas deux niveaux, mais il y a deux maîtresses. Donc le maître était là, celui qui faisait jeudi, vendredi, mais l'autre, donc j'ai rencontré le maître. Et j'ai dit directement à la maîtresse, à la directrice, que c'est pas lui. Les élèves, ces enfants-là qui harcèlent mon fils, ne l'harcèlent pas quand il y a le maître. D'accord. Parce que j'avais déjà rencontré la maîtresse de Owen, et je la sentais pas. Quand j'ai rencontré la maîtresse d'Owen, j'ai dit à Frédéric, je sais pas, la maîtresse, elle a l'air d'être, je m'en fous, quoi. Elle m'a dit, pourquoi tu dis ça? Non, je vais poser des questions sur mon fils, comment il est, parce qu'on venait juste d'emménager là-bas. Comment ça se passe avec lui? Ah, non, il est très bien, mais tu vois, il n'y a pas de, ah non, des fois, il est un peu, voilà.
Il n'y avait pas plus de dialogue, en fait, c'était juste.
Oui, ça se voit qu'elle peut même pas me parler de mon fils. Donc, je lui ai dit, non, c'est à 100. Et puis, quand j'ai eu le maître, il m'a dit, ah non, c'est effectivement, j'ai jamais eu de problème avec Owen, il m'a jamais dit que ses camarades l'embêtaient. Quand j'ai, réécouter la conversation. Quand mon fils me disait qu'il le disait à la maîtresse, mais pas au maître. Donc c'était quand la maîtresse était là. Du fait, voilà, les enfants s'autorisent tout et n'importe quoi par rapport à l'adulte qui est là. Ils savent en fait. Donc l'enfant est très réfléchi. Donc cette maîtresse là, qui était, je m'en foutisse quand je l'ai rencontrée, c'est à cause d'elle que mon fils a subi de l'harcèlement. Donc j'ai parlé au maître, m'a dit qu'il va faire attention et j'ai pas eu l'occasion de voir la maîtresse puisque la directrice l'a tenue informée. Ils ont réuni les enfants et après ça allait bien. Donc c'est pas pour autant que j'ai laissé mon fils dans cette école parce que je savais qu'il n'avait pas le bagage pour les années suivantes. Donc j'ai changé d'école. J'ai changé d'école. Je l'ai mis dans une école privée et ça se passe très bien. Voilà, parce que je voulais pas m'amuser tous les ans à dire, ah, est-ce que Owen est dans la classe de un tel. Il faut éviter de le mettre. Non, ça fait comme si.
Donc, c'est ton fils qui a dû changer d'école, en fait.
Voilà.
Quand même.
Il n'est pas en porcelaine. Donc, je ne voulais pas aller négocier parce qu'un jour, tu tombes sur quelqu'un et puis après, ça va être. Tout le monde va en parler. Je ne veux pas qu'on parle de lui comme l'enfant qui a vécu de l'harcèlement. Donc, je l'ai mis dans une école privée et il est très bien. Même s'il regrette parce qu'il me répète sans cesse, ah non, ils étaient gentils après. Non. Mais tu n'avais pas le bagage pour supporter ce qu'ils allaient faire après, quoi. Parce que c'est de pire en pire. Hein. C'est pas. Ils allaient pas être différents, quoi, c'est sûr. Et j'ai mal, je me dis, j'ai pas vu mon fils. Effectivement, il y a des choses qui auraient pu m'alerter, c'est qu'il avait commencé à faire pipi au lit. Donc il y a toutes ces choses-là. Comme je dis, le corps nous alerte, en fait. Donc j'ai pas vu ça, et je me dis, mais pourquoi il fait encore pipi? Peut-être qu'il a fait un cauchemar. Mais non, c'était ça, en fait. Ce côté, il veut pas aller à l'école. Donc il a aussi une dépigmentation autour de la lèvre qui se prononce aussi peut-être due au stress.
D'accord.
Donc, et ça, je me dis, oh, je m'en veux en tant que maman, et je me dis, j'ai pas vu mon fils dans cet état-là.
Je comprends ce que tu dis, mais tu peux pas t'en vouloir en tant que maman parce que tu peux pas être H24 en alerte. Je pense qu'on est en alerte tout le temps déjà en tant que personne noire. Hein. Ça nous tombe dessus des fois, c'est inattendu. Tu t'es peut-être dit qu'à ce moment-là, ça se passait bien. On n'est jamais assez préparé, peu importe, tu vois. Ça fait toujours aussi mal parce que c'est notre raison d'être entièrement en fait qui est remise en question à chaque fois. C'est de se dire notre humanité, notre raison d'être sur cette planète. Moi, je suis comme toi. Moi, ça m'a brisé le cœur quand je me suis dit, moi, je l'ai vécu, je peux le supporter, tu vois. Ouais, je peux me battre tous les jours contre le racisme, voilà. Mais mes enfants, ça m'a arraché aux tripes en fait. Vraiment, ça m'a bouleversé de me dire cette petit être, comment dire ça, si sans des, voilà, c'est ça, et de se dire que, et puis on sait les douleurs que ça fait, on sait les conséquences, on sait combien de fois il faut rester droit et ne pas plier. Et on se dit, mais on veut pas ça pour nos enfants. On veut pas cette douleur pour nos enfants. On veut pas. Et je pense que le monde s'écroule un petit peu quand on sait qu'on n'est pas capable, en fait, d'empêcher ça pour eux. Parce qu'on sait ce que c'est tous les jours. Donc, tu peux pas te mettre cette culpabilité. En plus, tu peux pas te dire, t'es empathique envers une personne qui fait du racisme. Pourquoi? Je veux comprendre ce qui lui arrive. Mais envers toi-même, en fait, tu vas pas être empathique. Non, non, je suis pas d'accord. Non, c'est pas que t'aurais pas dû, mais c'est que, non, franchement,
à ce moment-là, je me suis dit que j'ai pas bien, entre guillemets, surveillé mon gamin. J'ai pas vu. C'était pas le jour même qu'il a vécu ça. Ça fait des jours qu'il vit ça et j'ai pas vu ça. Et parce que je me disais que avec le temps, les années passent et on se dit que ça va s'arrêter, mais non, ça s'arrêtera pas. C'est pour ça que je dis à ma fille, attention, faut faire attention à toutes les remarques, à toutes les remarques quand voilà, effectivement, elle a un afro, donc. Je le dis souvent, April est différente quand elle est chez moi. Elle a son afro, elle assume son afro. Quand elle est à l'école, elle est bien tirée. Et ça, c'est... J'ai dit des paroles très blessantes à April, peut-être pour faire un...
électrochoc.
Un électrochoc en lui disant que c'est une partie de moi qu'elle refuse. Et ça, c'est difficile, effectivement, pour une enfant d'entendre ça. Mais c'est... Il faut que... Si je lui dis ça, elle va dire oui, mais j'aime ma mère, donc voilà, je vais plus accepter les critiques ou... les baby hairs, là, c'est, voilà, pour un cheveu caucasien, ça va se coucher, pour un cheveu afro, ça va faire un petit soleil, je vais avoir une critique comme ça, et je lui dis stop, April, stop, tout ce qu'ils vont te dire, je veux tout savoir. Quand je rentre, je veux savoir comment ça s'est passé la journée, si t'as une réflexion, une seule réflexion, stop là, n'attends pas la deuxième, parce que c'est comme ça qu'un groupe se forme. Donc, je veux pas. Et effectivement, quand elle rentre, elle me dit, on m'a dit ça, j'ai répondu ça, et oui, c'est, voilà, c'est,
elle s'entraîne en fait.
On s'entraîne parce que ce n'est que le début. Dans les transports, elle va forcément rencontrer ça. Dans les boulots qu'elle va avoir aussi, elle va rencontrer des collègues racistes partout. Donc c'est triste à dire, mais l'évidence, elle est là. Le racisme, il est là, et j'ai pas l'impression qu'il recule. Hein, non, bien au contraire, j'ai l'impression plus on avance, plus les, comme je dis souvent, les c'est
ils ont des ailes, ils prennent des ailes.
C'est ça. Aujourd'hui, on a des personnes même que peut-être que moi je fréquente ont entre guillemets les ailes croisées derrière. Et quand, par exemple, là, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer aux élections, l'extrême droite va passer. Cette amie qui m'aimait tant va commencer à avoir des propos qu'elle n'osait pas dire. Tu vois. Donc ça existe. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bouches fermées parce que ils pensent être une minorité et peut-être que c'est même pas une minorité. Voilà. Peut-être qu'on te dérange tant. Mais moi, c'est ce que je dis tout à l'heure. J'ai envie de comprendre qu'est-ce qui fait que je dérange tant. Je vais pas me soumettre à eux, mais je vais juste comprendre. Ma personnalité, elle est là. J'assume qui je suis, mais je voudrais que tu me dises pourquoi je te dérange tant. Voilà. Pour moi, c'est bon, j'ai mon bagage, il est prêt, j'ai du répondant, il n'y a pas de problème. Mais c'est pour mes enfants. Et si on pouvait avant d'avoir des enfants, peut-être les questionner, est-ce que vous acceptez? J'aurais peut-être réfléchi avant d'être avec Frédéric, parce que...
Moi, là, tu parles du couple mix, en fait. Ouais, tu dis, tu aurais peut-être réfléchi avant d'épouser, avant d'être paxé avec Frédéric, en fait, qu'homme blanc. Pourquoi ça?
Parce que ce qu'on fait vivre à nos enfants, ils l'ont pas choisi.
Et t'aurais été avec un homme noir, tu penses que ce racisme...
Non, je pense que l'enfant, voilà, il aurait vu ses parents. Moi, j'ai tous mes enfants, hein, mais April me l'a fait. April et Ivy, m'ont dit non, qu'ils n'étaient pas noirs. Effectivement. Voilà, je leur ai dit oui, ma maman est noire. Elle m'a dit non, maman n'était pas noire, t'es marron. Moi, je suis beige. Voilà, mais... ils sont... C'est cette partie de moi qu'ils ont... Si on doit aller... Il y a noir ou blanc. Aujourd'hui, pour l'homme blanc, il y a... C'est soit t'es noir, soit t'es blanc. Et aujourd'hui, ce métissage fait qu'on les passe...
Ils sont noirs.
Ils sont noirs. Donc ça a été... Non, April, t'es pas blanche. Et longtemps, si. Mais attends, t'es pas blanche, April. Donc dans ce cas-là, t'es métisse, t'es beige. Voilà, mais tu n'es pas blanche. Ça, il faut que tu le mettes dans ta tête. Et c'est vrai qu'en ce moment, Ivy, la dernière, elle me dit que moi, je suis marron, mais elle, elle est dorée. Pour elle est dégradée, voilà. Tu vois. Et ça aussi, c'est à cause de la société où on est aujourd'hui. Ils savent pas où sont les enfants. Ils savent pas où ils sont. Parce qu'ils ont pas de représentation, que ce soit dans les dessins animés. À la télé, il y a que des blancs. Et même, j'ai envie de dire, même en Afrique, quand je suis partie en Afrique, ils regardent beaucoup de séries avec des blancs. Il y a pas cette représentation où ils se disent, je suis métisse ou je suis noire. Parce qu'on est, encore une minorité. Partout où on va, on est une minorité. Même en Afrique, je suis une minorité. Or que ma couleur ébène, elle est pas représentée. Toi, t'es plus clair que moi, mais moi, en tant que femme noire ébène, je suis pas représentée, en fait. Parce que même pour les pubs, on va prendre toujours la métisse.
Tout à fait.
On va pas prendre, je sais pas, c'est ce côté négatif de la couleur noire.
Et du coup, quand tu m'as parlé tout à l'heure de Frédéric, comment il le vit, lui, Frédéric? Comment vous abordez, en fait, le racisme tous les deux?
Ça le met en colère, en fait. Hein. Ça le met en colère parce que lui, il comprend pas. Il comprend pas parce que souvent, et je l'entends souvent dire à ses enfants, oh, vous avez une belle peau, une belle couleur, vous avez de beaux cheveux, il les valorise, en fait. Ouais, parce qu'il sait que... Voilà. Mais je pense que Frédéric, au début, dans nos débuts, il se disait que c'était dans ma tête. Voilà. Mais aujourd'hui, en ayant des enfants métis, avec le regard des gens, on a voyagé. On a vu des gens regarder les cheveux de nos enfants, toucher les cheveux de nos enfants. Et oui, là, en tant qu'homme blanc, il connaît le racisme. Parce que souvent, tu prends un blanc, il va dire, ah non, le racisme, arrête, c'est, non. Mais Frédéric, vu qu'il est avec moi, femme noire, et qu'il a des enfants métis, il peut. Il peut parler du racisme aujourd'hui.
Donc il voit et il réagit quand il y a quelque chose qui se passe.
Oui, il réagit et voilà, ce que j'aime chez lui, comme je dis, il valorise ses enfants, t'as une belle peau, t'as une belle couleur, voilà, quand après, vas-y, lâche ton cheveu, il est beau, voilà.
Donc c'est des choses qu'il fait régulièrement, d'essayer de valoriser.
Ouais, c'est ça.
Ça, c'est important. Non, mais comme tu disais tout à l'heure, je me posais la question, en fait, parce que comme tu disais que tu te posais la question si...
Il aurait pas fallu qu'on réfléchisse.
Oui, voilà.
Oui, ça c'est quelque chose que j'assume, hein, c'est vrai. Parce que avec tout ce qu'ils vont vivre, ils n'ont pas choisi, en fait.
Alors, est-ce que tu voulais dire réfléchir d'avoir des enfants? Est-ce que, enfin, c'est ça peut-être que
c'est
tu
ça, veux... réfléchir d'avoir des enfants avec un homme blanc.
Ah, avec un homme blanc, quand même. C'est blanc. Pas juste avoir des enfants.
Non. Si...
Parce qu'en fait, ils auraient été noirs avec un homme noir. Enfin, t'aurais eu des enfants avec un homme noir. Le racisme, ils l'auraient quand même vécu. C'est ça, en fait, que j'arrive pas.
Je sais pas comment dire. Ils auraient été préparés, en fait, ils l'ont déjà, je sais pas comment dire, un enfant métis, comme lui, il ne sait pas réellement s'il est blanc ou noir, c'est ça, en fait. Donc, il ne comprend pas ce regard. Tandis que moi, en tant que femme noire ici, voilà, mes neveux et nièces savent le regard que le blanc a sur le noir, en fait. Mais le côté métissage, ce qui fait le... Ils savent pas où aller. Ils savent pas sur quel pied danser, en fait. Ils savent pas quel clan choisir. Et c'est ça, en fait. Quand tu es noir, tu dis t'es noir. Si t'es blanc, t'es blanc. Mais le côté métisse, je dois les attirer vers moi en leur disant vous allez avoir ce regard-là, en fait. Les gens vont vous regarder comme moi, pas comme papa. Ils vont vous regarder comme moi. Donc c'est ça, en fait. C'est ne pas leur laisser le choix de choisir, en fait, le clan et de leur dire non, tu t'es métisse, mais tu.
Ah ouais, non, mais là c'est carrément un truc de clan là.
Il n'y a que deux équipes.
Non, on va pas dans la troisième, ça n'existe pas, c'est ça.
Ça n'existe pas. Peut-être qu'avec le temps, vous allez former cette troisième équipe. Mais là, non, vous n'êtes pas... Non, oui.
C'est drôle ce que tu me dis, parce que ça ramène quand même, si je peux me permettre, je sais pas si j'ai le droit, ça ramène à quelque chose, en fait, à cette histoire, parce que ne serait-ce que le métissage, comment ? Parce qu'il a été créé aussi à une époque avec l'esclavage. Et que, bah, en fait, les métis, les blancs s'en servaient justement pour leur dire, bah, vous n'êtes pas comme des noirs. Ils n'étaient pas traités comme des blancs, mais ils étaient quand même le bourreau des noirs, en fait. Il y avait aussi cette histoire de comment ça, l'utilisation des métis pour, encore une fois, dans la classification de la couleur, d'où le colorisme, en se disant, bah, vous valez mieux que eux parce que vous avez du sang blanc quand même un petit peu à l'intérieur de vous et que eux sont 100% noirs. Et qu'en fait, on va vous donner un peu plus de passe-droit, pas tout à fait, puisque vous n'êtes pas tout à fait blanc, mais vous avez quand même un peu plus de passe-droit. Donc, il y a eu des métis qui se sont quand même laissés aller dans ça, et du coup, étaient clairement des bourreaux aussi, et servaient un petit peu d'espions, et ce genre de choses. il y avait des métisses dans comme Solitude qui elle a participé à cette révolte, cette révolution et qui a clairement rejoint en fait le camp justement des personnes noires esclavagisées pour aller mener à une révolte quoi. Mais c'était pas les métisses qui choisissaient un clan d'eux-mêmes, c'était déjà à partir du moment où vous avez des enfants quand on était des personnes noires, nos enfants étaient séparés de nous. Donc mais il y avait clairement une histoire de clan aussi dans le sens où ils étaient instrumentalisés, on va dire. Donc c'est ton histoire de clan m'a fait penser à il y a bagarre de clan à la maison. Je rigole.
Et voilà, il faut qu'ils ouvrent les yeux, quoi. Mm. Ce sera pas simple.
Une dernière petite question avant de conclure. Alors, on avait discuté le fait que la maîtresse en fait l'appelle par un autre prénom que le sien assez régulièrement. Est-ce que tu peux m'en parler un peu?
Ouais, ça c'est ma grande April qui est dans une classe, on va dire d'une vingtaine, on va dire 23 élèves. Mm-hmm. Elle est métisse et c'est une copine à elle qui est noire. Mmh. Et la maîtresse confond souvent les deux, mmh. en fait. Donc, elle appelle, elle m'a dit, « Ah, maman, tu sais, ma maîtresse, oh là là, elle aime souvent m'appeler, on va l'appeler... »
Brigitte, allez, appelons-la Brigitte.
Elle m'appelle Brigitte et des fois, Brigitte, elle appelle April. Moi, je trouve qu'elle abuse. Or que, on va dire, les 21 autres élèves, il n'y a jamais eu de confusion. Donc, moi, j'ai dit à April, écoute, je te permets, moi, ta mm-hmm. mère, de dire ça à la maîtresse. Mm-hmm. Oui, moi, je lui permets mm-hmm. de lui dire, madame, comment vous faites pour me confondre avec Brigitte? Mm-hmm. Et j'ai envie qu'elle te donne la réponse, mais si elle n'arrive pas, même si elle te convoque chez le proviseur, je viendrai et je voudrais que cette maîtresse aussi m'explique comment elle n'arrive pas à confondre les 21 autres élèves, qu'elle arrive à trouver leur prénom, et que vous, les deux filles noires, elle arrive à se tromper, quoi. Mm. C'est quoi? Ça veut dire, en fait, tout ce qu'ils disent sur les Noirs, tous les Noirs se ressemblent.
Oui, c'est dépersonnaliser la personne, encore une fois, déshumaniser. C'est une personne ou une autre, c'est la même.
Ça, j'aimerais bien. Je ne sais même pas si elle l'a dit. Parce que ça, je lui ai dit que je l'autorisais, en fait. Parce que j'ai peut-être envie de voir cette maîtresse.
Toi, tu vas avoir des questions à poser.
Je ne sais pas, j'ai envie qu'elle me dise comment elle fait. Mm. April, c'est pas commun, quoi. Mm. Et elles ne ressemblent pas du tout à Brigitte. Mm. Elles sont totalement... Elles sont c'est le jour et la nuit, quoi. Mm. Donc, ne me dis pas pour comment tu peux... C'est quoi? Il y a deux noirs dans la classe. Soit c'est A, soit c'est April, soit c'est Brigitte. Non, c'est pas ça. Donc, on peut aussi autoriser nos enfants à dire quand ça va pas. Mm. Comme, voilà, quand elle me disait que... Effectivement, la maîtresse... J'ai eu justificatif après avec la maîtresse. C'est qu'elle interrogeait jamais April. Mm. Donc, je lui ai dit, écoute, tu peux lui demander pourquoi elle t'interroge pas. Et puis, elle lui a dit non, parce que comme elle sait qu'elle connaît la réponse, mais oui, mais c'est pas une raison aussi. Mmh. Donc, depuis, elle interroge. Je dis à ma fille, tu peux lui demander pourquoi elle fait ça. C'est pas parce que tu connais la réponse qu'il faut pas que tu participes. Mmh. Parce que ça, c'est te mettre à l'écart aussi. Parce qu'un jour, tu vas penser avoir la bonne réponse et finalement, c'est même pas la bonne. Donc, elle doit te faire participer. Ces choses-là, je dis à ma fille, tu as le droit, donc tu peux demander, en fait, à avoir une réponse correcte, quoi. Donc, ça, non. Ça, je sais même pas. Faudrait que je demande est-ce qu'elle a demandé à la maîtresse comment elle arrive à confondre les deux noirs de la classe, quoi.
Non, mais cette histoire de prénom, ça arrive très souvent. Ma fille, ça lui arrive. On a eu, en fait, plusieurs discussions de témoignages de parents qui disaient que, leur enfant, noir était toujours confondu avec le seul enfant noir qui avait dans l'école et qui était même parfois pas dans la même classe. Donc c'est quelque chose qui arrive très 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 souvent.
C'est parce qu'il y a pas d'intérêt sur la personne, je crois, parce que quand tu dis oui, Anne-Marie, voilà, si on repart dans mes années école, on va dire ah, Anne-Marie, c'était une élève comme ça, comme si elle était tout le temps comme ça. Voilà, tu mets un texte sur la personne, mais là c'est April.
Mais attends, mais tu sais, moi, je vais chercher mes filles à l'école, on me donne toujours un enfant qui n'est pas le mien. Mais je te promets.
Quoi?
Ça fait la première fois. Mais non, mais c'est arrivé il y a 5 jours. On m'a dit, ah bah, vous êtes la maman de... Et le petit, on le pousse, et le petit, il veut pas venir parce que je suis pas... Et la dame qui continue à pousser, je dis, mais non, mais je le connais pas, cet enfant. Puis elle me regarde, elle fait, ah bon? Je dis, non, ma fille, c'est... Voilà. Mais depuis
le...
la mère est noire, mais du genre, on se ressemble vraiment pas. Mais quand je te dis de taille, de carrure, il n'y a rien qui se ressemble. de coiffure, il n'y a non mais c'est juste pas possible quoi, tu vois, c'est et ça me fait rire, tu vois, quand le 3 je lui ai dit ah
mais comment vous faites, moi j'aurais demandé hein, comment vous faites.
Non,
quelqu'un qui aime beaucoup réfléchir, je suis désolée.
Moi j'ai juste dit par contre c'est dangereux parce que si vous donnez nos enfants à n'importe qui comme ça, tu sais il était tout petit en plus parce que ma fille est petite et le pauvre était en train de tenir les murs, je sais pas, je la connais pas cette dame. Mais à la fin, il va me connaître parce que ça fait quand même, allez, depuis le début de l'année, ça fait 7 fois. Et avec ou sans masque, hein, c'est pas une question de masque. Hein. C'est, ça fait au moins 7 fois qu'on me refourgue cet enfant. Un jour, je vais le prendre. Hein, je rigole. Je blague. Oui, c'est un garçon. petite question quand même, du coup, ce sera la dernière. Qu'est-ce que tu pourrais, toi, conseiller aux parents? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil vis-à-vis de l'école, aux enseignants, aux parents ou aux enfants qui nous écoutent aujourd'hui par rapport au racisme?
Je ne sais pas si ce sera concluant. Hein, c'est quelque chose de... Voilà, c'est accepté pour moi que ça existe. Mmh. Le racisme existe. À nous, parents... d'informer nos enfants que ça existe et de les préparer aussi à ça. Parce que comme on les prépare en fait à être autonomes quand ils seront adultes, ça aussi c'est quelque chose... voilà, le racisme il est partout. Il n'est pas que à la télé, il est quand ils prendront le métro, quand ils trouveront un boulot, il est partout. Donc moi je dis, on doit les préparer à ça. Et c'est pas pour autant être raciste eux-mêmes. Hein. Non. C'est que il y a des gens qui ne vont pas les aimer à cause de leur couleur, pas à cause de leur personne. Même si ils ont un bon fond, leur couleur sera déjà un premier frein à leur carrière, à leur rencontre qu'ils pourront faire plus tard. Mais c'est aussi leur force pour moi. Pour moi, c'est de pouvoir, en étant métisse ou noire, c'est de pouvoir, comment j'ai appris. Je pense beaucoup à April parce que c'est ma plus grande et... Et je pense qu'elle me dit pas tout aussi. elle me dit pas tout parce que quand on a un parent comme moi qui est très, c'est pas que je me laisse pas faire, mais oui, c'est ma place en fait. Je veux pas céder ma place à qui que ce soit. C'est ma place et je veux la garder et c'est ça que j'ai envie de dire à ma fille. Ton métissage, c'est ta force en fait. Tu as la chance d'avoir deux parents de deux couleurs différentes. Tu as la chance d'avoir des oncles noirs et des oncles blancs. Et je sais pas comment lui dire ça. Le conseil que je pourrais donner, c'est préparez-vous. Voilà, c'est ça. Il faut qu'ils se préparent à recevoir des claques. Je sais pas. On peut pas leur dire. Ce serait leur mentir, leur dire ah non mais. D'ici 20 ans, il n'y aura pas de racisme. Le métissage, on le dit tout le temps, la France, c'est un pays multiculturel. Et non, il est là. Donc, prépare-toi, tu auras des claques, tu auras des gens, tu vas rencontrer de bonnes personnes parce qu'il y a de plus en plus de métisses. Mais il y aura toujours cette personne qui ne t'aimera pas parce que tu as osé ou tes parents ont osé mélanger deux couleurs, en fait. Même si on sait que le noir et le blanc, c'est pas des couleurs, mais voilà.
et je sens, en fait, dans ce que tu dis, que c'est quelque chose qui te touche, hein, par rapport à ta fille.
Oui.
Que c'est quelque chose qui te touche profondément par rapport à ce qui se passe avec ta fille.
Parce que j'aimerais qu'elle me dise, en fait, tout. Mais je sais qu'il y a des choses qu'elle me dit pas parce que elle sait que je suis une maman, rentre dedans et je veux pas qu'elle soit faible. Voilà, je l'autorise pas à être faible. Et c'est ça, en fait, qui me...
Tu l'autorises pas à être faible parce que tu as peur pour elle?
Oui, parce que je me dis que si elle est faible, elle va se faire marcher dessus. Et j'ai vécu du racisme. Je me souviendrai toujours, on est parti dans le 16e arrondissement avec ma sœur à l'époque. On devait avoir peut-être 15 ans. Et on s'était perdu et on voulait demander la route à une dame, une femme âgée. Et on a dit, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, madame. Ma sœur a eu le malheur de poser sa main sur l'épaule de la dame qui a rehaussé son épaule comme ça et qui nous a même pas regardé. Et c'est ça, quand est-ce qu'on était préparé? Non, on savait pas, hein. À l'époque, dans nos banlieues, on voyait des blanches. des Blancs, et qui nous parlait. Effectivement, là, on était parti dans le 16e. Et cette dame-là, on n'était pas préparé. Oui, à 15 ans, je n'étais pas préparée à me dire que, oui, il y a des, voilà, d'où je suis, les Blancs et les Noirs, on se côtoie sans problème. Et là, dans le 16e, la dame nous avait, nous a même pas regardé, en fait. Elle a levé son épaule pour enlever la main de ma sœur, et voilà. Donc, que je vende pas du rêve, qu'il se prépare à recevoir des claques, mais il y a tellement de belles choses derrière aussi, mais voilà, qu'on
ne cache pas ce racisme, on va dire.
Qu'on ne cache pas, parce qu'il est là. Il est là. Donc, si ce mot existe, c'est que ça existe, quoi. Donc, non.
Et puis, même si on enlève le mot race de la Constitution, on n'a pas enlevé le racisme.
Voilà. Voilà. Donc, voilà, que il n'y a pas...
Bah écoute, merci beaucoup pour ton témoignage, merci beaucoup pour cette conversation. Je l'ai trouvée vraiment très intéressante. Bravo à toi pour ce que tu fais, parce que je sais que tu as aussi une volonté énorme, et c'est pour ça que tu dis que tu mérites ta place, parce que c'est du travail et de la volonté et une réelle envie, en fait, on va dire, d'apporter. Quelque chose de bien, quelque chose de valeur, quelque chose de qualitatif pour notre société et aussi pour les personnes noires et la communauté, on va dire. Ouais. Voilà. Ouais. Merci à toi, Anna.
Merci à toi, Prisca, d'avoir partagé ce moment avec moi. Franchement, ça fait du bien. Et même si, voilà, j'y crois.
On n'a pas le choix, de toute façon.
J'y crois,
avancer.
On va y arriver, de toute façon. C'est sûr, on va y arriver, mais avec beaucoup d'obstacles, mais on y arrivera. Ouais.
D'accord, ce sera le mot de la fin.
Si vous avez aimé notre podcast, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous mettre 5 petites étoiles.
5,
ainsi
5,
que
5.
De partager autour de vous, que ce soit sur Twitter, Facebook.
Et sur Instagram. On est encore sur Instagram. Et si vous avez des questions ou des commentaires, nous serons ravis d'échanger avec vous sur les enfants du bruit et de l'odeur, tout en attaché, @gmail.com.
À très bientôt, Ulrich.
Moi, quand je serai grande, je serai actrice.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.